Vous êtes sur RTL.
Bah écoutez, accueillir des Afghans, oui, mais il faut prendre toutes les précautions. Si on a le moindre doute, il faut les laisser et les renvoyer chez eux.
Le rappel des titres avec Amandine.
Et la Haute Autorité de Santé donne ce midi son feu vert à une troisième dose de vaccin anti-Covid. Les experts le recommandent pour tous les plus de 65 ans et tous ceux qui présentent des comorbidités. Au total, ce sont plus de 13 millions de personnes qui sont concernées. L'actualité, c'est aussi cette polémique, vous l'évoquiez à l'instant, Pascal, après l'interpellation d'un des 5 Afghans placés sous surveillance après avoir été rapatrié en France. Un individu soupçonné de lien avec les talibans et qui a essayé d'échapper à la surveillance sous laquelle il avait été placé. Il est ce midi toujours en garde à vue. Et puis le coup d'envoi des Jeux paralympiques, la cérémonie d'ouverture débute à l'instant à Tokyo. 138 Françaises sont en lice et on les suivra jusqu'au 5 septembre. La météo, c'est avec vous Peggy Broche. Et enfin, ça y est, des températures de saison.
Et oui, Amandine, on gagne 1 à 3 degrés par endroit.
Ah, c'est bien ça.
C'est pas mal, oui. Exactement. On va le ressentir. De toute façon, ça c'est sûr. 21 degrés à Cherbourg, 22 au Havre, 23 à Nancy, Aurillac, 24 à Paris et Biarritz, 26 à Nantes et Lyon, 27 à Bordeaux, Toulouse et Nice, jusqu'à 29 à Marseille et même 30 degrés cet après-midi à Perpignan. Alors côté ciel, globalement c'est du très beau temps, même très ensoleillé surtout au nord, entre nuages et éclaircies sur le reste du pays, avec un petit vent de nord-est qui peut donner cette petite sensation de fraîcheur par moment, mais vraiment pas grand-chose. Un ciel variable donc ailleurs, et par contre sur la région PACA, sur le relief des Pyrénées et le relief Corse, là le temps devient de plus en plus nuageux, pluvieux et orageux, donc là ça se dégrade véritablement.
Et demain ce sera encore mieux.
Oui, parce que le soleil il va s'imposer sur l'ensemble du pays dès le matin et toute la journée, donc une vraie sensation d'été. En tout cas côté ciel, allez, petit bémol quand même, parce qu'il y en a toujours en matinée, quelques nuages bas sur les côtes de la Manche et entre le Jura et les Alpes, mais vraiment pas grand chose. Et reprise de l'instabilité l'après-midi, mais beaucoup moins marquée qu'aujourd'hui, avec quelques averses localement orageuses sur les Pyrénées et le relief des Alpes. Peut-être une petite averse sur le relief du Massif Central et du Jura, c'est vraiment histoire de signaler, mais vraiment pas grand chose. Sinon on aura une belle sensation d'été avec des températures qui seront en baisse le matin, mais en hausse l'après-midi. Le matin de 11 à 15 degrés généralement, jusqu'à 21 près de la Méditerranée. Et dans l'après-midi, de 20 degrés à Cherbourg à 30 à Nîmes, 24 à Strasbourg, ainsi qu'à Rennes, 25 à Paris, 26 à Grenoble, 28 degrés à Bordeaux, 29 à Auch et à Toulon.
Merci Peggy.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Merci Amandine. Alors que des avions en provenance de l'Afghanistan sont arrivés en France tout au long de ce week-end, parmi les rapatriés des talibans se seraient infiltrés. Au total, ce sont 5 Afghans qui ont été placés sous surveillance. L'un d'entre eux a été placé en garde à vue après avoir rompu son isolement. On était avec Marc qui est policier dans l'Essonne. Et la question qui nous intéresse, elle est simple d'ailleurs. Peut-on accueillir des milliers d'Afghans en toute sécurité? Et je vous ai posé la question il y a une seconde, Marc, et vous n'avez pas répondu oui ou non à cette question.
C'est toujours difficile par rapport à une question comme ça de répondre oui ou non d'une manière péremptoire. C'est pratiquement impossible. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de prendre toutes les précautions possibles et inimaginables, tous les renseignements qui sont en notre possession par rapport à ça. Mais s'il y a le moindre doute qui existe sur une quelconque ingérence, une quelconque intelligence avec l'ennemi, appelons les gens comme ils sont, il faut laisser la personne. On peut pas se permettre de faire rentrer sur notre territoire des gens dont on n'est pas sûr et qui, dès la première occasion, d'ailleurs ça n'a pas traîné quand même pour celui qui est en garde à vue à l'heure actuelle, va pouvoir essayer de s'envoler dans la nature et puis de faire ce qu'il a à faire par rapport à ce qui... au niveau du terrorisme. Donc c'est des risques.
Non mais c'est intéressant parce que j'écoutais par exemple Vladimir Poutine qui très clairement a fermé la porte. Il a dit voilà, je ne prendrai pas le risque de faire entrer le sol russe des gens qui auraient infiltré et qui seraient des terroristes en puissance. Il l'a pas dit exactement comme ça, mais lui il a fermé la porte, c'est-à-dire que c'est zéro risque. Bon, et puis il y a un devoir d'humanité, bien sûr, il y a une tradition française aussi. Et quand on a vu les images, et notamment de ces femmes qui sont dans une détresse très grande, on entendait tout à l'heure Pierre Urmic, et effectivement, il y a un devoir d'humanité de pouvoir accueillir des gens qui veulent fuir précisément ce régime.
Non, mais ça c'est une chose. Mais il y a aussi une chose, c'est que nous, enfin, notre gouvernement, en fait, nous doit en fait la sécurité par rapport à par rapport à la tranquillité. On ne peut pas faire rentrer un loup dans une bergerie et puis après se dire non, mais finalement, c'était pour le sauver parce qu'il y avait un tigre qui voulait le bouffer. Je veux dire, ça n'a absolument aucun sens. Vous savez, moi, j'ai fait une mission sur Frontex quand j'étais en 2017. Vous voyez, c'est pas si vieux. Mmh. Tous les jours, il y avait 200 réfugiés qui faisaient les 14 kilomètres qui distançait l'île de Lesbos des côtes turques. On voyait ce qui se passait et on se dit, moi je me disais en tant que policier français, attention, c'est ma frontière à moi, c'est la frontière de la France où je suis actuellement. Parce qu'en fait, les frontières de la France sont actuellement en Grèce. Donc quelque part, si nous on se loupe à ce moment-là, on fait rentrer n'importe qui. Et j'étais avec un policier allemand qui, lui, avait été déjà à sa deuxième mission. Quelque temps auparavant, il avait fait rentrer trois personnes qui venaient de Syrie. Ces trois personnes-là, on les a retrouvées, elles étaient en train de faire une soirée au Bataclan, si vous voyez ce que je veux dire. Lui, il s'en était toujours pas remis, quoi. Donc, c'est des choses avec lesquelles on ne peut pas plaisanter, on ne peut pas... Dès qu'il y a un doute, en fait, le doute doit nous protéger, nous, la société française. On ne peut pas rentrer des gens pour lesquels on se dit « Non, mais finalement, peut-être que... » Ou alors, on ne sait pas. Si on ne sait pas, on ne prend pas le risque. Parce qu'on a vu ce que ça nous coûte en matière de risque.
Eh bien, merci Marc. Vous étiez le premier auditeur sur ce sujet. On va essayer de faire un dialogue entre deux jeunes étudiants, David qui a 20 ans et Pauline qui a 19 ans et qui semblent avoir des points de vue différents. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le sujet du jour. Faut-il continuer d'accueillir des réfugiés afghans sur le sol français? Marc a été le premier à réagir au 3210.
On ne peut pas se permettre de faire rentrer sur notre territoire des gens dont on n'est pas sûr.
5 Afghans ont été placés sous surveillance après avoir été rapatriés en France. L'un d'eux a été placé en garde à vue. Peut-on accueillir des milliers d'Afghans en toute sécurité? Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, était l'invité de RTL hier matin.
Il ne peut pas y avoir d'accueil inconditionnel de tous les Afghans en France. C'est absolument impossible. La France ne pourrait pas le supporter.
Alors, c'est venu, vous inquiète-t-elle? Non, pour la maire de Lille, Martine Aubry.
J'ai vu que les Français en général pensaient que c'était dangereux de recevoir ces personnes. Et s'ils les connaissaient, ils verraient que c'est pas ça le sujet, que la moindre humanité, c'est d'ouvrir nos bras. Il faudrait que tout le monde le fasse, et même une petite ville peut accueillir une famille. C'est pas compliqué, on ne demande pas d'accueillir tout l'Afghanistan.
2000 personnes ont pour le moment été évacuées par la France. Pierre Urmic, maire Europe Écologie Les Verts de Bordeaux, était l'invité de RTL Midi.
Notre souci doit être d'accueillir les familles, les personnes qui sont actuellement menacées et qui sont en danger. C'est comme ça qu'on a opéré, nous, à Bordeaux.
Mais que craint le député LR Éric Diard, invité de RTL Petit Matin?
Évidemment, les talibans vont vous envoyer des personnes infiltrées, et ces personnes infiltrées passeront à l'acte. L'histoire se répétera.
Et vous, qu'en pensez-vous? Nous attendons vos avis dès maintenant au 3210, 3210.
Je vous annonçais un débat possible entre David. Bonjour, vous êtes étudiant à Sciences Po, Aix-en-Provence.
Bonjour Pascal.
Merci d'être avec nous. Vous êtes plutôt pour accueillir, si j'ai bien compris, les réfugiés afghans en France.
Eh bien non, plutôt contre, je dirais, Pascal.
Ah bah écoutez, sur ma fiche, c'est marqué, il est du devoir de la France de les accueillir. Donc effectivement, c'est pas le débat que j'imaginais. Et puis Pauline, qui est étudiante, qui a 19 ans. Donc Pauline, quel est votre sentiment sur cette possibilité d'accueil?
Bonjour, je pense qu'il y a une petite inversion, c'est plus moi qui était pour l'accueil.
D'accord, Pauline. Bon, alors peut-être qu'on va commencer justement par David, oui. Qui va nous expliquer pourquoi vous pensez que ce devoir d'humanité que chacun peut avoir, il faut le mettre de côté et penser d'abord à la sécurité.
Alors d'abord, moi je veux d'abord accentuer sur les définitions. Qu'est-ce qu'un réfugié et quel type de réfugié on accueille? Moi, je pense qu'il faut vraiment s'accorder d'abord sur la nuance entre réfugié politique, sous-entendu quelqu'un qui risque sa vie pour avoir travaillé avec des Français, pour avoir été traducteur, pour avoir été chauffeur et pour avoir en majorité travaillé avec l'Occident. Donc tous ces réfugiés politiques risquent leur vie des talibans qui vont instaurer un régime possiblement sous la charia et qui va forcément nettoyer les anciens, entre guillemets, collaborateurs avec l'Occident. Et donc, il faut différencier ces réfugiés politiques, que moi j'estime on a le devoir d'accueillir, parce qu'ils nous ont aidés, parce qu'on a travaillé avec eux, des réfugiés sociétaux, qui, comme les réfugiés syriens, ont fui une guerre civile, ont fui la charia, ont fui des régimes terroristes. Cela, bien sûr que l'humanité, le ressentiment nous prend, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et si vous voulez, on ne peut pas non prendre le risque qu'il n'y ait ne serait-ce qu'un seul terroriste parmi ces réfugiés afghans sur le sol français. On a vu ce que ça a donné en 2015, le Bataclan. On a vu ce que ça a donné en 2016, la promenade des Anglais. Je suis désolé, c'est de l'irresponsabilité.
Vous ne croyez pas à la possibilité de contrôle et de sécurité assurée à 100%?
Ben non, parce que le risque zéro n'est jamais atteint. Et alors, je pense qu'on a un passé beaucoup trop dramatique et beaucoup trop récent pour recommettre les mêmes erreurs encore aujourd'hui.
Pauline.
Oui, alors moi, je suis totalement d'accord sur le problème des réfugiés politiques, c'est-à-dire que c'est des gens qui nous ont aidés, des gens qui ont été effectivement chauffeurs, traducteurs, etc. Pour moi, de ce côté-là, il n'y a pas de question qui se pose. C'est des gens qui nous ont aidés. Il est aujourd'hui de notre devoir de les aider. Après, le problème, effectivement, c'est que, comme dit David à très juste titre, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Aujourd'hui, on ne parle pas de dizaines de milliers d'Afghans, en tout cas pas pour l'instant. Et pour ce qui est du problème de sécurité, comme il a dit, le risque zéro n'existe pas. Mais d'un autre côté, on a effectivement un passé. Est-ce qu'on ne peut pas tirer des leçons de ce passé? Essayer, là, on l'a bien vu, en très peu de jours, ils ont déjà repéré des individus qui étaient problématiques. Le risque zéro n'existe pas, mais d'un côté humain, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de laisser des gens livrer à leur propre sort, des femmes qui vont souffrir, des martyrs et bien d'autres parties de la population également? Et d'un autre côté, est-ce que d'un point de vue sécurité, c'est aussi logique de laisser un État taliban proliférer, leur laisser la porte ouverte en leur disant prenez cet État, nous ne ferons rien, nous n'accueillerons pas les populations? Est-ce que ça ne serait pas donner ce signal de dire vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez, et pourquoi pas le pays d'à côté et celui d'à côté? Et est-ce que le risque n'est pas aussi grand sans accueillir ces populations qui, au bout d'un moment, seront obligées de se soumettre et pourquoi pas même poursuivre de devenir eux-mêmes membres de l'organisation islamiste? Est-ce que le ratio, c'est des choses qu'il faut réfléchir? Le seul problème, c'est que c'est des problèmes qu'il faut prendre dans l'urgence.
Écoutez, c'est ce qui est terrible lorsqu'on écoute David et Pauline, et je pense que chacun peut se faire la réflexion, c'est que les arguments que vous échangez, ces arguments s'entendent. Et la difficulté donc de celui qui prend les décisions, en l'occurrence le gouvernement, c'est de choisir entre ces arguments. Voilà.
Mais vous voulez que je vous dise, Pascal?
Oui.
Moi, ce que je trouve insupportable avec le gouvernement Macron, c'est qu'en 2018, on avait des tweets d'Edouard Philippe qui nous disait « Nous avons un devoir d'hospitalité envers les chrétiens d'Orient », mais il ajoutait « Mais le futur des chrétiens d'Orient est en Orient ». Alors, ce qui est insupportable, c'est qu'aujourd'hui, on ne pose pas la question du futur des Afghans qu'on accueille et qu'on dit simplement, on les accueille en majorité pour se faire bien voir par les médias et par la communauté internationale.
Non, mais il n'y a pas que ça. Oui, il n'y a pas que ça. Moi, je veux pas faire d'angélisme, mais c'est vrai que j'ai vu, comme vous, ces images de femmes qui veulent fuir ce régime. Et j'ai pensé, mais comme beaucoup de gens ont dû penser, aux Juifs entre 1933 et 1940, sous le régime nazi. Et Hitler avait demandé aux autres pays d'accepter de prendre les Juifs, puisqu'il avait annoncé qu'il les chassait. Et les États-Unis n'avaient pas levé le petit doigt, si j'ose dire. Personne n'avait, dans la communauté internationale, à ce moment-là, accueilli ces populations. Et on sait ce qui est arrivé ensuite. Donc voilà, c'est toute la difficulté de faire de la réelle politique, de garantir la sécurité, de faire preuve sans doute d'humanité.
Il est là bien aussi sûr. Le problème, si je peux me permettre. On regarde l'histoire, vous évoquiez les Juifs, et c'est à juste titre. Si on regarde l'histoire en arrière, combien de fois, en tout cas personnellement, en cours d'histoire, j'ai pu me demander comment a-t-on pu laisser arriver de telles choses? Eh bien, est-ce que plus tard, nos enfants, dans 20, 30 ans, si on ne fait rien, ne diront-ils pas la même chose? Comment a-t-on pu laisser faire ces...
Mais oui, mais c'est là que les arguments sont en place. C'est-à-dire que si vous mettez une communauté afghane dans un quartier de France, au milieu, dans des conditions sans doute très difficiles, sociales, culturelles, comment vous faites avec ces hommes et ces femmes qui sont des adultes? Qu'est-ce que vous leur proposer? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous pouvez les faire travailler? Comment ça peut se passer, l'intégration? On voit bien toutes les difficultés.
Bien sûr.
Bon, Pauline David, merci en tout cas. On merci marque une pause. Il est 13h17. Je salue Damien Béchiot. On parlera tout à l'heure évidemment de la météo et, puisque nous avons réclamé un été indien à la fois musical mais également dans le ciel, eh bien cet été indien, d'ailleurs c'est pas maintenant l'été indien, généralement c'est à partir du 15 septembre tout un été fait. Indien, c'est pas là, là c'est l'été quand même tout court, l'été indien plus déjà la, l'été, la fin de l'été ça doit être le 21 septembre, donc l'été indien par définition c'est plutôt en automne, si j'ose dire. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Vous savez que dans Alice au pays des merveilles, vous commencez les 364 jours de votre non-anniversaire. Vous
connaissez ça. Voilà.
Et ben aujourd'hui, hier, c'était votre anniversaire. Mais aujourd'hui, je vous souhaite un joyeux non-anniversaire.
Ah ben je partage ce message et même à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent.
Bien sûr, vous connaissez
et
ça.
Et on chantera la chanson dans Alice. On la passera demain Béchiot à la fin de l'émission. Les changements de sujet, rien à voir. Faut-il continuer d'accueillir des réfugiés afghans sur le sol français? Peut-on le faire en toute sécurité? C'est non pour David il y a quelques instants.
On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et si vous voulez, on ne peut pas non prendre le risque qu'il n'y ait ne serait-ce qu'un seul terroriste parmi ces réfugiés afghans sur le sol français.
Réaction de Pauline quelques secondes après.
Le risque zéro n'existe pas, mais d'un côté humain, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de laisser des gens livrés à leur propre sort? Des femmes qui vont souffrir, des martyrs et bien d'autres parties de la population également.
Et nous attendons vos avis, vos témoignages au 3210.
Et on salue vraiment Pauline et David pour la qualité de leurs arguments tous les deux. Olivier, bonjour.
Bonjour Pascal,
donc
bonjour.
Vous êtes
à
l'homme,
tous.
Si j'ai bien compris, de Facebook cette
exactement,
année.
Exactement, l'homme uniquement de Facebook.
Oui, bah, qui lit les messages Facebook.
Donc exactement. Les réseaux sociaux.
C'est une grosse communauté Facebook.
Énorme communauté, bien sûr.
Bon, que dit-on sur Facebook?
Bonjour à tous. Donc on a Mireille qui est très inquiète sur notre page Facebook. J'ai peur que l'on ne s'en sorte pas. D'un côté, il me semble humain que la France accueille certains réfugiés, mais de l'autre, ça pourrait permettre à des talibans de s'infiltrer. Selon Pierre, il n'y a pas à réfléchir une seule seconde. On sauve tout le monde et on verra après. C'est de notre devoir ce qui se passe là-bas.
Si on sauve tout le monde, effectivement, c'est toute l'Afghanistan qui vient chez nous si on sauve tout le monde.
Pour Yves, il ne faut accueillir uniquement que ceux qui ont été employés par la France en Afghanistan. Et enfin, pour Anne, c'est non. La France n'a plus la capacité en 2021 d'être une terre d'accueil comme elle a pu l'être.
Merci Olivier. Hamid est avec nous, qui est un ancien policier qui écoute ce débat depuis 13h05. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pro.
Quel est votre...
Moi je rejoins les deux auditeurs précédents, Pauline et David. Déjà on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme l'avait dit Michel Rocard. Et c'est vrai, parce que vu le laxisme instauré actuellement en France, vous pensez très bien que les talibans... ils sont pas si bêtes que ça. Ils disent sinon on va aller en France, on sera pas contrôlé, on peut rentrer, on peut s'associer avec les islamistes qui sont très nombreux dans certaines banlieues.
Qu'il y a des services de sécurité de renseignement en France quand même.
Bien sûr, on a des
services. Et que le renseignement, il marche plutôt bien en France, paraît-il.
Oui, enfin, il marche plutôt bien, mais je vais vous dire, la faille, ils arrivent toujours à la trouver, ils arrivent toujours à passer. Vous savez, une faille, on la trouve toujours, on arrive toujours à passer. Et c'est ça. C'est là-dessus qu'il faut être, mais plus que vigilant.
Ils le sont forcément, mais c'est une question de principe. À l'arrivée, où vous fermez la frontière, où vous ouvrez les frontières avec le risque que vous dites. C'est quoi votre position?
Moi, non. Moi, je dis déjà en France, on est débordé par une...
Donc vous faites entrer personne, c'est ce que vous dites?
Mais moi, non, je fais entrer personne. Oui. Ou alors, vraiment, mais alors, il faut vraiment...
Non, mais c'est la position de Poutine, je l'ai dit tout à l'heure. Poutine, il prend aucun risque, comme ça. Pas d'Afghans sur mon territoire.
Mais
les femmes en détresse, mais les enfants en difficulté, mais toutes les... Tout d'abord, c'est des gens qui veulent fuir ce régime, je le rappelle.
Tout à fait, ils veulent fuir ce régime. Mais bon, le gros problème, c'est que malheureusement, dans ceux qui vont fuir, moi je ne vous donnerai pas de pourcentage, mais il peut y avoir un pourcentage important de talibans qui... ou même qui ne le sont pas encore, mais qui peuvent le devenir. Vous savez, l'esprit humain est malléable. Qui peuvent arriver en France, et puis après, s'acoquiner avec les frères musulmans qu'on a en France, dans des banlieues très connues comme Trappes, par exemple, et puis fomenter des projets d'attentats. C'est pas à exclure. Et même si on a des services de renseignement français qui sont performants, vous savez, il y a toujours une faille où on arrive à passer à travers.
Merci, Hamid, pour ce témoignage. Vous êtes ancien policier ?
Oui, tout à fait. Je suis en retraite depuis 9 ans de la grande maison.
La retraite se prend assez tôt dans la grande maison, manifestement.
Ah, bah oui, hein, bah, j'ai pas honte de le dire. Moi, je suis parti, j'avais 56 ans et demi quand je suis parti.
Et voilà. Retraite à taux plein dans ces cas-là?
Oui, parce que j'avais fait 5 ans de marine avant d'être policier.
Voilà. Ah, et donc, quand on fait 5 ans de marine, on peut partir plus tôt.
Bah, je vais vous le dire, même si ça peut faire.
Non, mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien parfois avoir des informations sur la vie des uns et des autres.
Et malgré que j'ai eu quand même un petit incident dans ma carrière, j'ai quand même pu partir à 56 ans. Mais attention, je vais vous dire quand même une chose, hein, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une réforme qui fait que les policiers devront partir beaucoup plus tard pour avoir une retraite maximum. Voilà.
Bon, bah, merci beaucoup, Hamid, en tout cas, de ce témoignage. Et puis, la sincérité, la franchise avec laquelle vous vous exprimez. Cédric est là. Cédric qui habite Bourg-en-Bresse. Bonjour. Oui.
Bonjour Pascal.
Cette fois, j'ai bien dit Bourg-en-Bresse, parce que pendant 50 ans, j'ai dit Bourg-en-Bresse. Bravo, donc maintenant, j'ai progressé, j'essaye de progresser d'une année sur l'autre, il y a du boulot, mais bon.
C'est les vacances, ça fait du bien.
Bon, quelle est votre position sur ces Afghans et sur les réfugiés afghans?
Alors, j'ai une position, on va dire, c'est un condensé un peu de tout ce que j'ai entendu, sauf des absurdités sans nom que j'ai entendu aussi. Il faut évidemment accueillir tous les Afghans qui ont pu aider la France. Pendant ces années où ils ont occupé le territoire afghan pour sécuriser l'Afghanistan. Bien, évidemment, il faut les aider. Après, je suis d'accord sur le fait qu'on peut pas accueillir tout le monde. Et à la fois, là où je suis moins d'accord, c'est de dire, effectivement, il y aura toujours des moutons noirs qui vont se glisser là, etc. au milieu. Mais il faut que les gens réfléchissent. Vous pensez franchement que les talibans, ils ont besoin de ça pour venir s'infiltrer dans les pays et commettre des attentats?
Ah, ça, je n'exclus pas, oui. Ça, je n'exclus pas cette hypothèse, Cédric.
À un moment, ils ont pas besoin de ça. Moi, aujourd'hui.
Bah, ils ont pas besoin, ça veut dire. La phrase, qu'est-ce que vous voulez dire? Ils ont pas besoin de ça.
Ils ont pas besoin qu'on accueille des réfugiés afghans pour s'introduire dans la population française ou dans d'autres pays, enfin, d'ailleurs.
Je n'exclus pas qu'il puisse exister des terroristes venus d'Afghanistan qui soient talibans et qui veulent, en France, monter, pourquoi pas, des filières et fomenter un attentat. Oui, je ne l'exclus pas.
Ça, je suis d'accord, mais ils n'ont pas besoin que la France accueille des réfugiés afghans pour ça. C'est ça que je veux dire par là. Moi, ce qui m'inquiète, en réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément d'accueillir ou non. Pour moi, il faut accueillir tous ceux qui ont aidé la France. Point. Ça, pour moi, ça, c'est indéniable. Après, à côté de ça, moi, ce qui m'inquiète, c'est que les talibans, ils ont repris l'Afghanistan, ils ont pris Kaboul. C'est-à-dire qu'ils ont une base maintenant, ils ont une base pour justement fomenter leurs attentats à travers le monde. Et ça, ça m'inquiète. Et moi, je pense que le problème, il faut le prendre à la source aujourd'hui. Il faut faire une coalition internationale. Et c'est brut ce que je vais dire, mais on attaque. Point. On attaque.
On attaque. C'est-à-dire qu'on attaque l'Afghanistan. L'Occident attaque l'Afghanistan.
On déclare la guerre parce qu'on va laisser.
On déclare la guerre. Mais l'ONU. Franchement, une résolution de l'ONU et on part en.
C'est très brut ce que je dis.
Oui, mais ça n'a pas l'air d'être la tendance surtout puisqu'on s'est retiré. Vous savez que ce qui est amusant quand même dans l'histoire, c'est qu'aucune intervention de l'Occident dans un pays. Après donc une intervention et on est parfois resté sur place pendant un an, deux ans, trois ans. Eh bien, à l'arrivée, aucune intervention ne s'est soldée par l'installation d'un régime stable et durable. C'est incroyable
C'est-à-dire que ça a toujours été
un échec, sauf peut-être les États-Unis lorsque les États-Unis sont allés dans les années 70. Dans des régions sud-américaines, comme
Parce que qu'est-ce qu'on fait? On fait comme en 33, on laisse faire, et après ça fait.
Mais non, mais c'est une bonne question que vous posez. Moi, je constate que la France au Mali, que la France en Libye, qu'à chaque fois qu'il y a eu des interventions, au fond, je ne veux pas dire qu'elles ont été contre-productives, mais en tout cas, elles n'ont pas débouché, ça c'est factuel, sur l'instauration d'un régime stable, durable et pérenne. Jamais. Non,
parce que l'idée c'est pas de s'installer sur place. Hein. L'idée c'est on attaque, on dégage tout le monde.
Après quand je parle de l'instauration d'un régime, c'est effectivement que après on se retire et on met en place un régime. C'est jamais arrivé.
Parce que là on va faire quoi? On va laisser faire, ça va faire des petits et je sais pas dans quel monde on vit. Et comme en 33, on laisse faire et l'ONU comme d'habitude en bon médecin qui dit c'est pas bien, faut pas faire, etc. Mais qui fait rien. Donc au final ça sert à rien. Donc protégeons ceux qui ont aidé les Français et advienne que pourra.
Eh bien écoutez, merci de ce témoignage. Il y a d'autres questions hein, évidemment dans l'actu aujourd'hui. Il y a cette troisième dose, et ça c'est intéressant la troisième dose, parce que troisième dose, quatrième dose, cinquième dose, peut-être que tous les six mois, tous les huit mois, les populations fragiles devront retourner se faire vacciner parce que le vaccin n'est plus efficace, nous dit-on, au bout de six ou huit mois pour les personnes les plus fragiles. Donc à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et nous sommes avec François pour un dernier auditeur, peut-être sur cette question que nous posons. Peut-on accueillir des milliers d'Afghans en toute sécurité ? François qui habite dans le Calvados, bonjour.
Bonjour, bonjour Pascal. Eh bien, moi, je vous dirais simplement que d'abord, en premier lieu, c'est que la France a obligation de récupérer toute personne qui a servi pour les intérêts de la France, qui a servi pour la France. Ça, c'est une chose importante. Mais il ne faut pas oublier que les talibans ne sont pas qu'une bande armée afghane. C'est aussi tout un concept qui fait qu'aujourd'hui, au milieu des réfugiés que l'on va recueillir, il va y avoir des éléments comme ça qui vont sortir. C'est ce que j'appelle moi, vulgairement, une cinquième colonne. C'est-à-dire, ce sont des éléments qui vont paraître être des réfugiés, mais qui ont les desseins de l'islam radical et politique, et qui vont essayer d'avancer encore plus dans le monde occidental qui est le nôtre. Parce qu'il ne faut pas oublier que le départ de l'Afghanistan, ce n'est pas un départ anodin, c'est une défaite du monde occidental vis-à-vis de la force radicale islamique et qui fait son gouvernement et sa politique sur l'islam. Et ça, c'est important. Et je pense qu'on aura obligation d'accentuer la sécurité en France. Et ça, malheureusement, il faudrait que les politiques aient le courage de nous le dire.
Alors, l'expression que vous avez employée, qui est l'expression « cinquième colonne hein, », ça désigne oui. Généralement des partisans cachés, finalement, au sein d'un État ou d'une organisation d'un autre État ou d'une organisation hostile. Hein. C'est ça le principe de la cinquième colonne.
Ben oui, c'est ça le principe de la cinquième colonne. Mais aujourd'hui, au milieu, il va y avoir un nombre croissant de réfugiés. Il va sans dire que même si tous les contrôles sont parfaits aujourd'hui, il va sans dire qu'il y aura des éléments qui seront de plus en plus en liberté, plus que ceux qui seront repérés. Et ça, il faut en tenir compte. Il faut en avoir conscience. Parce que ne pas en avoir conscience, ben c'est la perte de notre société occidentale. Parce qu'aujourd'hui, l'Afghanistan est aux mains des talibans. Les talibans sont l'ethnie des Pashtuns, et les Pashtuns sont aussi majoritaires au Pakistan, et qui est-ce qui empêche que demain le Pakistan devienne avec l'Afghanistan une force de frappe pour aller vers l'Occident?
Mais merci François, je vois que vous connaissez particulièrement bien ce sujet.
J'essaie de m'informer, parce que faut pas simplement écouter simplement une information puis dire moi j'aime pas les étrangers, j'aime pas ceci. Moi j'aime tout le monde, dans la mesure où il n'y a pas de danger pour ma propre famille et pour le peuple dans lequel je vis.
Eh ben écoutez, merci beaucoup. Il est 13h34, on va parler du temps qu'il fait.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Toute la pluie tombe sur moi.
Pour être tout à fait honnête, Damien Béchiot, c'est pas la pluie, moi, qui m'a frappé cet été, c'est les nuages. C'est l'absence de soleil. Et notamment dans l'Ouest, puisque je suis resté quand même pas mal de temps, entre le 15 juillet et le 15 août, et c'est vrai qu'il y a eu un déficit de soleil. Alors, on était tout à l'heure avec Amandine Bégaud, avec un prévisionniste météorologiste de Météo France, qui ne confirmait pas tout à fait notre sentiment, qui disait, voilà, cet été ne va pas entrer dans les annales des étés les plus pourris. Donc, on va peut-être être avec un jeune météorologue qui s'appelle Iliès, qui a 18 ans. Bonjour, Iliès.
Bonjour.
Vous êtes déjà météorologue ou c'est une passion ?
Alors, c'est une grande passion pour le moment, évidemment, mais c'est prévu d'être mon métier d'ici quelques mois.
Ah, c'est génial. Donc, vous allez un jour croiser la route de Peggy Broche ou de notre ami Louis Baudin ?
Oui, peut-être. Oui, pourquoi pas. J'ai déjà rencontré Louis Baudin à l'occasion d'une présentation météo que j'avais faite sur LCI en 2019. Mmh. Et j'en garde plein de souvenirs.
Bon, alors moi ce qui m'intéresse, j'arrive pas à voir les stats, c'est l'ensoleillement dans l'Ouest, disons entre le 1er juillet et le 15 août. Est-ce que cet ensoleillement est très faible par rapport aux autres années?
Au niveau de l'ensoleillement, non, ça va, on s'en sort plutôt bien. Surtout dans le sud, évidemment.
Ouais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est dans le nord. Parce que dans le sud, on sait bien. Le problème, ça a vraiment été dans le nord. Il y a une fracture importante, c'est le sentiment que j'ai, entre nord et sud.
Effectivement, voilà. Il y a eu vraiment un très, très gros contraste entre le sud et le nord. Et c'est vrai que dans le nord, comme dans l'est, on a quand même eu pas mal de nuages.
Un ensoleillement, mais est-ce que vous avez des stats précises? Ou est-ce que c'est trop tôt?
Des stats précises sous la main, non. surtout dans le nord. Parce que c'est pas du tout ma région, j'ai pas spécialement regardé, mais en tout cas je peux vous affirmer que oui, l'ensoleillement a été bien déficitaire sur le nord de la France cet été.
Ce qu'on aimerait, alors il disait 20% peut-être de soleil en moins, mais ce qui m'intéressait aussi c'est de savoir sur les 50 dernières années par exemple, si cet été-là était particulièrement sans soleil, parce que j'ai entendu cette phrase que disent les gens généralement sur la météo: on n'a jamais vu ça, jamais on a vu ça, c'est pas possible, jamais, mais non je t'assure on n'a jamais vu ça, vraiment. Et ces petites phrases m'amusent toujours parce que faut se méfier de ses propres sentiments. Bon, Iliès, on va être avec Nicolas, qui est agriculteur et qui habite Dijon. Bonjour Nicolas. D'abord, est-ce qu'il fait beau aujourd'hui à Dijon ?
Bonjour. Oui, aujourd'hui il fait beau.
Ah bon, il y a du soleil.
Mais il fait beau.
Bon, et vous n'avez pas quitté la région cet été ?
Ah non, c'était plutôt compliqué.
Pourquoi ?
J'ai un peu de moisson à faire. Donc, entre deux averses, il y avait un peu de soleil, on va dire. Donc, voilà.
Ah, il y a eu beaucoup de pluie ?
Eh bien, on a eu 9 mm en 2020 pour le mois de juillet. Et 2021, on a 50 mm pour le mois de juillet.
Oui, effectivement. C'est donc 20 fois plus quasiment, quoi.
Oui.
Bon, et ça des conséquences pour les moissons ?
Ah, bien sûr. Bien sûr, puisque la plante par elle-même, vous la semez, ce qu'elle veut faire, c'est se renouveler. Donc elle arrive en épi, en graines. Donc au stade optimal pour la récolter, s'il pleut dessus, vous perdez et de la qualité, voire même le grain germe. Il veut à tout prix se remultiplier. Donc il s'avère qu'il y a des blés qui, au lieu d'être passés en blé meunier, sont passés en blé fourragé. Donc pour l'alimentation du bétail. Donc au prix, on a perdu de l'argent sur la tonne, forcément. Ça frôle entre 30 et 50 euros selon la perte de qualité, quoi.
La fête des moissons, généralement, c'est le dernier week-end d'août.
Oui, on va dire comme ça, oui.
Ça veut dire que là, les moissons sont terminées.
Oh, il en reste. Il en reste.
Mais vous, par exemple, tout est fini ou
On a fini samedi dernier.
Et c'est pour ça qu'on fait la fête des moissons généralement à la fin de l'été. Généralement, c'est le dernier week-end d'août.
Voilà.
Enfin, je ne sais pas si c'est une tradition qui perdure, mais dans les campagnes, jadis, c'était cela.
Oui, mais on n'est plus trop jadis, quoi.
C'est joli, votre phrase. C'est vrai. C'est vrai qu'on est, plus trop jadis. Il est 13h39, sauf quelques-uns, bien sûr. Merci, Nicolas. On parle de la météo. Alors, vous pouvez nous appeler comment vous avez vécu ce temps, et notamment si vous êtes dans l'ouest de la France où le temps a été peut-être plus compliqué, et en Normandie. Parce qu'en Normandie, alors, en plus, il faisait plus frais. Parce que, notamment dans les terres, parce que si vous êtes sur le littoral, le temps change parfois avec un petit peu de vent, on peut avoir un peu de soleil. Mais quand vous êtes dans les terres, c'est compliqué. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et avec Laurent Tessier.
Quel temps a-t-il fait chez vous pendant les vacances ? Avez-vous eu un été entre guillemets pourri ? It's raining men. Et c'est vrai que certains disent...
Ah, j'ai jamais eu ça. Vraiment, j'ai jamais eu ça.
Ah oui, est-ce votre cas ? Avez-vous l'impression de ne voir que des nuages, de la pluie ? Avez-vous ressorti les manteaux ? Est-ce le pire été qu'on a connu dans certaines régions, notamment dans le nord, l'ouest ? Oui, c'est vrai.
Doudoune, mais les manteaux...
Je vous propose l'heure de vérité. Mais oui, avec cette question que l'on attendait tous, la vôtre, Pascal. Tristan Ham, prévisionniste à Météo France, il était l'invité de RTL Midi.
Est-ce qu'il y a réellement eu moins de soleil en moyenne? Alors ça, c'est sans doute vrai. Mais est-ce qu'il y a eu si peu de soleil que ça va rentrer dans les annales de la météo? Je parle dans l'ouest et au nord de la France, disons entre le 15 juillet et le 15 août.
Alors non, au niveau des valeurs d'ensoleillement, c'est vrai qu'on est un peu déficitaire, hein, on peut atteindre jusqu'à 20% de déficit, mais rien de quoi affoler les records d'ensoleillement pour cette période.
Ce n'était donc qu'une impression, donc musique caliente, Damien Béchiot.
Moi, je suis quand même pas très convaincu parce que j'étais sur place et vous aussi peut-être.
Oui, c'est vrai qu'on l'aura attendu.
Voilà, on était quand même sous les nuages. Muriel. Muriel, bonjour. Ah bah oui, mais vous habitez dans le Vaucluse, donc là, ça change tout, ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Il
a fait un temps sublime dans le... Non, mais vraiment, et là, la fracture a été très forte cet été entre le sud et le nord.
Oui, tout à fait. Non, nous, on a eu un super été. Sans souci, hein. On a eu beau temps, on a eu une journée ou peut-être deux journées de pluie, mais c'est tout. Il faisait chaud, il faisait bon, manger dehors, barbecue dehors, non, sans souci.
Ah là, vous nous faites rêver parce que barbecue dehors, pour se réchauffer ça, peut-être autour du bras zéro pour nous, gens du Nord, mais autrement, ouais. pas pour dîner dehors.
Ouais, non, mais c'était pas général en fait. Dans le Sud-Est, il faisait bon, hein, sincèrement. Hein.
C'est pas... Mais oui, non, mais il fait toujours bon dans le Sud-Est. Vous êtes hôtelière?
Tout à fait.
Combien de chambres?
14 chambres. On s'est eu souvent, hein, Pascal. Hein. Je vous ai appelé quand c'était la crise déjà. J'ai appelé plusieurs fois. Je suis à Vaison-la-Romaine.
Je me souviens, effectivement. Voilà. Donc les 14 chambres ont été occupées tout le temps.
Ah, mais on a eu un été fantastique.
C'est combien d'étoiles, votre hôtel?
C'est un petit 2 étoiles, charmant. Donc, la Bastide de Vaison, à Vaison-la-Romaine.
Donc la chambre est à combien?
Les petites standards, elles sont à 76 et ça monte jusqu'à 136.
136, c'est un certain prix quand même, 76 aussi d'ailleurs, mais 136. Les gens qui viennent chez vous restent combien de nuitées en moyenne?
En moyenne, je dirais c'est 3 nuits, et c'est ce qu'il faut.
Pourquoi vous dites c'est ce qu'il faut?
Parce que c'est sympa, les gens ils s'adaptent un peu à l'hôtel, puisque c'est un petit hôtel chaleureux, familial, et puis ça leur permet aussi de découvrir la région Vaison-Ventoux, qui est une région que les Français découvrent.
Mais c'est
à
sublime.
Grâce, vous faites comme vous dites, comme vous voulez, au Covid. Hein.
Il y a petit déjeuner, évidemment.
Bien sûr, il y a le petit déjeuner. Et une chose dont je voulais vous parler, c'est concernant le pass sanitaire. Je n'ai aucun problème avec ça. Les clients arrivent, me montrent leur passe, ça se passe super bien.
Mais dans un hôtel, le passe sanitaire, il n'est pas exigé. C'est au petit déjeuner qu'il est exigé. C'est ça le paradoxe, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans un hôtel, dormir dans un hôtel sans passe sanitaire.
Voilà, tout à fait. Si vous ne prenez pas le petit déjeuner et si vous n'allez pas à la piscine, on a une piscine aussi.
Oui, c'est ça. C'est assez particulier d'ailleurs. Donc on peut rentrer dans un hôtel sans passe sanitaire, mais on n'a pas le droit d'aller dans la piscine et pas le droit de déjeuner. C'est un hôtel que vous aviez acheté ou c'était une affaire de famille?
Non, c'est un hôtel qu'on a acheté il y a 6 ans. C'était une reconversion professionnelle en fait.
Mais ça fait rêver, je trouve, d'être hôtelier.
Eh ben, c'est énormément de travail. Oui, ça fait rêver pour rencontrer plein de gens. Et à chaque fois, c'est plein d'histoires, plein de rencontres. C'est passionnant. Surtout, nous, on est que deux à bosser avec mon mari. Donc, c'est génial, franchement. Et puis là, comme je vous dis, on a fait un super été. Là, c'est bon. Les gens, on a eu beaucoup de Français.
Ben ça, c'est plutôt sympa. Mais c'est un gros investissement quand même, j'imagine. Il y a 6 ans, c'est une somme importante, un hôtel de 14 places, de 14 chambres.
Oui, pour nous, et puis et aussi socialement, parce qu'on a quitté notre région, on est stéphanois et on est venu ici.
Mais ça fait rêver, moi, je trouve, d'avoir un hôtel comme ça, mais ça doit être hors de prix, j'imagine. Bien sûr, Muriel, ça doit pas être facile. Mais
on a travaillé pendant 25 ans quoi, pour pouvoir... on avait tous les deux, mon mari et moi, un travail où on gagnait bien notre vie, nos filles étaient élevées, donc c'est pour ça qu'on a des filles aussi, comme vous. Donc du coup, elles sont parties, elles ont fini leurs études. Du coup, avec mon mari, on s'est retrouvés tous les deux et on s'est dit, il faut qu'on se bouge.
Donc si j'ai bien compris, en gros, vous faites 1500 euros de chiffre d'affaires par jour, par exemple, avec vos 14 chambres. En gros, à la louche.
Exactement.
Donc.
Ah, la louche, comme vous dites.
Non, non,
après,
mais.
Il y a toutes les charges fixes à payer.
Oui, bien, je me doute bien que ce n'est pas dans la poche, les 1500 euros.
Non, mais il faut quand même le dire.
Mais ça fait en gros 45 000 euros par mois, ça fait 90 000 euros sur la saison, quoi, de chiffre d'affaires. Et tout après, il faut payer. Alors, j'imagine, il y a des femmes de ménage, vous avez peut-être un. C'est vous qui faites le petit déjeuner le matin?
Alors nous, on fait le petit déjeuner le matin parce qu'on n'a pas de restauration, donc ça nous permet de discuter avec les clients et puis d'être avec eux un petit peu aussi. Mmh. Et puis sinon, oui, on a des femmes de ménage, on en a deux. Et puis voilà, on fait. Et puis il y a toutes les charges fixes.
Bien sûr.
Bon, il y a le loyer, il y a tout ce qu'il y a à faire. Mais bon, sachez qu'on a eu beau temps dans le sud-est.
Je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est une belle histoire et c'est vrai que c'est intéressant pour ça d'échanger avec vous.
C'est bien de changer, c'est bien de changer. Il y en a qui changent d'homme ou de femme. Nous, on a changé de métier. Et on est toujours tous les deux et ça fait 30 ans.
Depuis combien de temps vous êtes ensemble ?
30 ans.
Bah écoutez, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. En plus, vous travaillez tous les jours ensemble.
Tous les jours ensemble.
Donc là, il faut vraiment beaucoup s'entendre et bien s'entendre et avoir une complicité très très forte. Mais c'est bien aussi de travailler avec quelqu'un qu'on aime. J'en suis persuadé que c'est...
Mais oui, c'est bien.
Exactement. Oui, c'est comme bien, ça, on profite génial. De lui toujours et tout le temps. C'est pour ça que je travaille avec Damien Béchiot tous les jours.
Ah, merci Pascal. Ça, c'est beau, ça.
Même si on se voit un petit peu moins. Je vois que Jean-Alphonse Richard est là également parce que tous les jours à 13h55, Jean-Alphonse viendra nous mettre de l'eau à la bouche avec cette émission à 14h30 que vous écoutez sans doute, Muriel.
Oui, j'écoute. J'écoute tout.
L'heure du crime, vous avez raison. La pub, tout de suite. La pause, à tout de suite.
À bientôt.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Magasin. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
C'est un classique, mais c'est toujours efficace. Maxime habite Angers. Alors, c'est intéressant parce que c'est l'Ouest précisément. Bonjour, Maxime.
Oui, bonjour.
Vous êtes resté cet été à Angers ?
Oui, je ne suis pas parti en vacances. Là, je suis agriculteur. Moi, mais alors, je ne suis pas Angers, je suis entre Angers et Nantes, dans le Segré, exactement, un petit village là, qui s'appelle Loiret. Mmh. Et du coup, j'écoutais donc votre émission là sur le temps et vous cherchiez des témoignages. Et donc, comme beaucoup d'agriculteurs, en fait, nous, moi, j'ai été impacté par les difficultés de récolte de moissons. Et il y a aussi un fait qui a été vraiment marquant sur nos exploitations, c'est qu'aujourd'hui, on est de plus en plus producteur d'électricité via des centres, enfin des panneaux photovoltaïques qu'on monte sur nos hangars. Et cette année, en fait, entre le 10 juillet et le 15 août, on a une perte de production d'à peu près 30%, quoi. Et s'il y a bien quelque chose qui traduit l'ensoleillement, c'est bien la production.
Mais alors ça veut dire quoi pour traduire en absence de soleil? Ça voudrait dire qu'il y a 30% de soleil en moins?
Globalement, oui. Par exemple, une journée ensoleillée. Donc nous, on a une centrale de production sur l'exploitation agricole et j'en ai une donc sur une maison d'habitation. Pour vous donner une idée, sur une maison d'habitation, on produit à peu près 10 euros de courant par jour, des belles journées ensoleillées. Et on arrivait à produire ça même des fois en février, alors que les journées sont quand même moins ensoleillées. Et là, en juillet-août, il y a des fois, on était à quasiment une production de 2 euros. Quoi. C'est-à-dire qu'en gros... Là, vous aviez quasiment... Enfin, on ne voyait pas le soleil, concrètement.
Mais non, il n'y avait pas de soleil, je suis d'accord avec vous. En plus, donc... des séquences, moi, ce qui m'a frappé, c'est que vous avez eu 4 jours, 5 jours, 6 jours sans soleil.
Voilà, sans soleil. Même des fois,
ce qui est incroyable au cœur de l'été. Les gens dans le sud doivent se dire, mais c'est des fous. Pourquoi ils restent dans le nord de la France? Je vais citer Noirmoutier, par exemple. Il y a une semaine, moi, je suis resté 4 jours, on n'a pas vu le soleil.
Oui, moi je sais que sur la côte atlantique ça a été pareil et du coup des fois ça me fait un peu rire les prévisionnistes de Météo France parce que pour eux on est toujours dans la normalité sauf quand il s'agit de quand on parle justement forcément du réchauffement climatique haut. Mais là, en l'occurrence, là, c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. Moi, j'ai 39 ans, je suis un jeune agriculteur parce que ça fait 13 ans que je fais ce métier. Il y a des gens qui ont 60 ans passés, ils n'ont jamais connu un été aussi pourri. Et on le voit parce que il y a une production d'herbe qui est exceptionnelle, des productions de maïs, on n'a jamais vu ça. Alors que d'habitude, il est de coutume en fin d'été d'entendre les agriculteurs en train de se plaindre parce qu'il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus de maïs, alors que là, cette année, vous entendez pas du tout d'agriculteurs se plaindre, quoi. Donc voilà un peu mon témoignage.
Non mais c'est intéressant parce que d'abord votre témoignage est très précis. Je rappelle que vous êtes producteur d'électricité photovoltaïque, mais vous ne faites pas que ça manifestement.
Non. En fait aujourd'hui la plupart des exploitations agricoles on a des surfaces de hangars assez conséquentes et du coup on a un intérêt majeur en fait à mettre des panneaux photovoltaïques qui produisent en fait de l'électricité qu'on vend tout simplement à EDF. Quoi. Et donc tous les mois en fait on a notre relevé d'électricité et on fait une facture EDF et donc on suit,
et ça rapporte ça
ça rapporte oui parce que vous avez une rentabilité qui est intéressante et ça permet en plus de produire de l'électricité localement quoi donc
ça a eu payé comme disait Fernand Reynaud dans le sketch
Non, ça n'a pas eu payé, ça paye toujours.
Ça paye plus. Bon, mais alors, vous voulez pas nous dire combien ça rapporte ? Je comprends.
Écoutez, c'est assez complexe parce que en termes de, enfin, ça dépend de l'installation, ça dépend quand est-ce que vous avez fait vos contrats. Mais oui, ça, c'est, de toute façon, là, plus ça va, plus les agriculteurs aujourd'hui sont producteurs d'énergie et moins en moins, plus ça va aller, plus on sera producteur d'énergie et de moins en moins producteur d'alimentation, si ça continue.
Merci Maxime. Et ce qui est étonnant également, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui vendent leur terrain pour imposer, pour mettre des éoliennes parfois. Et ça leur rapporte de l'argent.
Oui. Bon, ça, c'est un vaste sujet aussi.
C'est un vaste sujet, comme vous dites. Merci beaucoup, Maxime.
Bonne journée.
Et dans Loire-Atlantique, à 13h56.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Et je le disais tous les jours, l'ami Jean Alphonse Richard viendra rendre une visite. Hier, on a parlé de Simone Weber.
Oui, Weber.
Et aujourd'hui, vous allez nous parler de qui, de quoi ?
Alors, je vais vous parler d'un homme, ou plutôt d'une silhouette, d'une ombre, l'étrangleur de la Robertsau. C'est à Strasbourg. C'est au milieu des années 80, et c'est un homme qui a fait régner la terreur pendant plusieurs mois dans cette ville et dans ses quartiers chics. Il s'introduisait la nuit dans des appartements, violeur. Il a même tué une jeune étudiante de 17 ans. C'est un parcours très, très barbare qui s'est arrêté d'un seul coup. On avait très peu d'indices. Il y avait une empreinte palmaire, comme on dit. Puis il y avait aussi sa voix, parce qu'il a appelé les parents pour se féliciter de ce viol d'une petite fille de 10 ans. C'est un document qu'on a et qu'on va diffuser tout à l'heure dans l'heure du crime. C'est tout à fait terrifiant. C'est un document qui a été enregistré sur le répondeur de la famille. Et puis d'un seul coup, cette cavale mortelle s'est arrêtée, du jour au lendemain. Alors on a cru qu'il était mort, évidemment dans ces cas-là on pense toujours que la personne est morte. Et on a retrouvé cet homme 27 ans après, un bon père de famille, installé près de Bordeaux, totalement inséré. Il avait été marié pendant 20 ans, aucun problème. Il s'est fait coincer évidemment à cause de cette empreinte et on va donc parler de cette personnalité, de cet homme qui s'appelle Nicolas Charbonnier, qui est aujourd'hui en prison. Il a été jugé, condamné à perpétuité. On va raconter cette histoire qui est tout à fait frappante et glaçante et exemplaire aussi, parce que l'enquête a abouti.
Merci, rendez-vous à 14h30. Agnès Bonfillon pour le rappel des titres à 14h après la pause.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL.
Il est quasiment 14h. Le rappel des titres avec Agnès Bonfillon.
Une troisième dose de vaccin pour les plus de 65 ans à partir du mois de septembre. Les plus de 65 ans, mais aussi les personnes présentant des comorbidités. Cette fois, la recommandation est officielle de la part de la Haute Autorité de Santé. Un rappel qui devra être espacé d'au moins 6 mois avec la première injection. La vaccination des policiers au contact du public pourrait devenir obligatoire. Gérald Darmanin prévient que ce sera le cas si le taux de vaccination n'atteint pas 90%. Pour l'heure, il privilégie le jeu de la discussion sociale, dit-il. Le ministre de l'Intérieur qui assure qu'il n'y a eu aucune défaillance dans le suivi de l'homme afghan rapatrié de Kaboul et placé sous surveillance dès son arrivée à Paris. Celui-ci a été interpellé pour ne pas avoir respecté son assignation à résidence. L'Afghanistan, les les évacuations de civils. Ce sera l'une des questions majeures abordées cet après-midi lors d'un sommet virtuel du G7. En 2016, il avait été condamné à la prison à vie pour crimes contre l'humanité. L'ancien président tchadien Hissène Habré est mort en détention au Sénégal. Il avait 79 ans. Il aurait succombé au Covid-19 selon les médias locaux. Coup d'envoi des Jeux paralympiques de Tokyo. La cérémonie d'ouverture a lieu en ce moment même, sans aucun public. À partir de demain, la majorité des épreuves aussi se dérouleront à huis clos en raison de la situation sanitaire. Le Japon fait face à une cinquième vague de contamination. La météo demain, ce sera quasiment la même chose qu'aujourd'hui. Journée ensoleillée, une fois les grisailles matinales dissipées. À part dans le sud, là, le ciel nuageux, avec encore quelques averses orageuses des Alpes à la Corse et sur les Pyrénées. Les températures, elles, iront le matin de 10 à 13 degrés au nord, de 12 à 22 au sud. Le Quintet Plus à Deauville. Il fallait jouer le 4, le 6, le 5, le 8 et le 3. Le 4, le 6, le 5, le 8 et le 3. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Praud.
Merci Agnès, et rendez-vous à 15h, j'imagine.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
On va partir pour une des plus belles îles de l'Atlantique, c'est l'île Dieu. Bonjour Yannick.
Oui, bonjour Pascal, bonjour et bravo pour vos émissions, parce que vraiment c'est un plaisir que de vous entendre.
Vous êtes gentil, mais vous êtes un habitant de l'île Dieu.
Ah oui, ça fait 71 ans que je suis à l'île Dieu, je suis né, j'y vis et j'y meurrai.
C'est extraordinaire. Et vous avez toujours travaillé à l'île Dieu ?
J'ai toujours travaillé à l'île Dieu, Pascal. Et je pense que vous connaissez l'île Dieu, parce qu'en tant que voisin, vous y venez.
Je viens de temps en temps. Faut dire aux auditeurs que l'île Dieu, il n'y a pas de voiture, sauf quelques résidents.
Non, nous avons, faut bien préciser, que nous avons en gros, résidence secondaire et résidence principale, 5000 maisons. Oui. Il y a en gros 5000 voitures.
Oui, alors...
Qui cause beaucoup de problèmes. Bon. Parce qu'à l'île Dieu, nous n'avons pas le pont comme à Noirmoutier.
Bien sûr, mais il y a la traversée dure une petite heure en voiture. En bateau.
Demi-heure maintenant, c'est catamaran, avec les bateaux rapides.
Bon, mais effectivement, les gens qui arrivent chaque jour ne peuvent pas rouler en voiture. Nous sommes d'accord. Chemins que des routes.
Non, il y a route et chemin chez nous.
Oui. Bon. Je vous laisse, je ne veux pas vous contredire.
Non, mais c'est une réalité, là. C'est absolument la réalité. Parce que même, je vais vous dire, il y a beaucoup trop de voitures, parce que nous avons aussi un parc de vélos de peut-être 30 000 ou 35 000 vélos.
En tout cas, qu'est-ce que vous faisiez quand vous travailliez ?
J'étais pas en bâtiment.
Et donc, vous allez sur le continent quand même de temps en temps.
Ah oui, bien sûr, ils parleront tant sur le continent.
Et vous avez eu des enfants, j'imagine, Yannick ?
Oui, j'ai deux filles.
Mais vos filles, elles vivent à l'Île-Dieu à l'année ?
Tout le monde vit à l'Île-Dieu,
Ça, c'est formidable. Elles ont trouvé du travail sur l'île ?
Oui, ils ont trouvé du travail. Notre gendre, il est chef de gare à l'Île-Dieu. Et ma fille tient un magasin de commerce.
Vous avez dit chef de gare à l'Île-Dieu ?
Oui, mais il y a la gare maritime, le bateau.
Oui, bah oui.
Bah oui, mais on n'y vient pas en train, Pascal. Hein.
Bon. Non, mais c'est formidable d'être avec un Ilien, parce qu'il y a quelque chose chez les Iliens qui est si particulier.
Un Ogien, pour précision. Les gens de l'île Dieu, on les appelle, ce sont des Ogiens, du nom Oya.
Non mais c'est un tempérament, c'est une couleur, c'est une façon de vivre qui est si particulière.
C'est une façon de vivre, c'est un tempérament, comme vous dites, c'est une façon de vivre. Et on y, comme je disais à votre standardiste, on y vient, on y est bien et on y revient.
Et vous n'avez jamais imaginé, manifestement vos filles non plus, vivre ailleurs ?
Ben non, que voulez-vous, c'est le paradis l'île Dieu.
Je suis assez d'accord avec vous.
C'est le paradis. Ça me fait vraiment plaisir de vous entendre, Pascal.
Bon, vous nous avez appelé a priori pour la météo. Parce que je parle, évidemment, je me disperse, mais le vrai sujet, c'est quand même la météo. Et là, vous n'avez pas été gâté, parce que j'étais en face parfois.
Pas du tout. Vous voyez, hier, il a fait un temps magnifique. Je suis allé à la pêche aux crevettes, j'en ai pêché 120 grammes, ça m'a fait plaisir. Et aujourd'hui, je n'y suis pas allé parce que le temps était gris et froid.
Mais oui, alors que c'est assez étonnant d'ailleurs qu'on avait annoncé du beau temps aujourd'hui.
Ben oui, mais là, le ciel est nuageux. On dirait que le soleil voudrait apparaître un petit peu, mais pas beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Bon, globalement, vous dites quand même que c'est un été sans soleil.
C'est un été sans soleil, un été médiocre, je peux dire. Un peu froid, humide et peu de soleil.
Et vous, c'est important, cette météo, ou vous êtes pas météo-dépendant ?
C'est important pour nous, mais c'est surtout important pour les gens qui viennent passer des vacances.
Et là, effectivement, les gens faisaient un peu la tête, j'imagine.
Bah, les gens, on trouve les gens, ils se promènent, ils vont pas à la plage, ils peuvent pas aller à la plage, c'est pas très très beau. Mais je précise que l'eau n'est pas froide.
Non, mais l'eau, en plus, il y a des criques qui sont absolument sublimes. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas un parc hôtelier très important à
Lille. Non, pas du tout.
Mais il y a un hôtel nouveau qui a été construit, je crois, il y a quelques années.
Le Caillou Blanc, il a été construit, il a été ouvert l'an dernier, ou il y a deux ans. Ça se trouve en bord de mer, juste après Port-Joinville, si vous connaissez.
Bien sûr, Port-Joinville, c'est quand on arrive.
Oui, Port-Joinville, et c'est en direction de Saint-Sauveur, c'est à 600 mètres de Port-Joinville.
Et effectivement, il y a combien d'habitants l'été, vous avez dit, à 5000 personnes ?
L'été, on est à 35 000 personnes, alors que l'hiver, on est 5000 habitants.
Donc tout le monde se connaît.
Bah, tout le monde se connaît. Et ce qu'il y a, c'est qu'à Lille-Lieu, on ne porte pas notre nom, on porte des surnoms pour bien différencier la famille.
C'est pas vrai. Alors vous, votre surnom, c'est quoi ?
Mon surnom, c'est Lutin.
Lutin ?
Lutin, un petit canaillou, un petit brigand.
Le petit canaillou, oui. comme Larry Crow.
Petit canaillou.
Le petit canaillou. Dites-moi, quand arrive la fin de la saison, au 1er octobre, par exemple, le soir, si on veut dîner dans l'île-Dieu, c'est possible ou tout est fermé ?
C'est possible, il y a peut-être un ou deux restaurants d'ouvert. Dans la rue qui monte à l'église, de Port-Joinville, dans la rue qui monte à l'église, vous voyez, ça s'appelle les Bafouettes. C'est un traiteur de la mer et c'est très très bon ce qu'il fait.
Mais autrement, évidemment, c'est une vie particulière quand arrive le 15 septembre.
Quand arrive le 15 octobre, on retrouve notre insularité. Quoi.
Quelle est la saison que vous préférez, Yannick, à l'île-Dieu ?
Moi, j'aime bien l'automne, l'hiver et le printemps. Je n'aime pas l'été. Parce que notre île ne nous appartient plus.
C'est la chanson, vous savez, qu'on pourrait entendre d'ailleurs de Beko, c'est en septembre.
C'est en septembre.
Voilà, c'est exactement ça. Bon, ben, Yannick, c'est la première fois que vous nous appelez ?
Ah non, j'ai déjà appelé deux ou trois fois pour des sujets un petit peu particuliers. Vous avez appelé deux ou trois fois pour le sujet contre l'alcool.
Et on s'était eu au téléphone tous les deux ?
Non, c'est la première fois. C'est la première fois que je vous ai.
Oui, parce que ça m'aurait marqué, quelqu'un de l'île-Dieu.
Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai.
Bon, ben c'est gentil, mais on va la chanter ensemble, si vous voulez, cette chanson.
C'est en septembre.
C'est en septembre.
Quand les voiliers
seront rentrés.
C'est en
septembre. D'un automne. Voilà, Pascal.
Moi, j'adore cette émission. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je suis amoureux de cette émission parce qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait pas imaginés. On va sur des conversations qu'on n'aurait pas imaginées non plus. Et c'est un bonheur d'être avec vous.
Écoutez, Pascal, Yannick. J'ai 71 ans et j'écoute RTL depuis l'âge de 15 ans.
Ben, comme moi.
Et je suis fidèle auditeur d'RTL et je vous adore tous. D'ailleurs, j'ai des photos, j'ai des cartes RTL, j'ai des cartes de Max Beignet. Bouvard.
Dans les années 70, effectivement.
Des cartes d'animateur. Et si vous voulez bien, vous m'enverrez une carte d'animateur.
Mais avec plaisir. Alors, dans les années 70, c'était André Torrent, c'était Michel Drucker, c'était Mini Grégoire, Philippe Bouvard, 70-80, Fabrice, bien sûr. Toutes les grandes voix d'RTL. Ouais. Bah, écoutez, moi, j'écoutais comme vous quand j'avais 15 ans. J'ai pas encore 71 ans, mais j'écoutais très tôt RTL. Merci beaucoup, Yannick, à l'île-Dieu.
Pascal, à bientôt, et puis continuez vos émissions, elles sont superbes.
Bah écoutez, c'est très gentil à vous, mais c'est vraiment agréable de parler avec vous. 14h10, à tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RFR. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors, vous l'avez compris, parmi les nouveautés de l'année, il y a monsieur désormais Facebook. Il s'appelle Olivier. Et quand il n'est pas chez le coiffeur, parce que c'est un homme qui va souvent chez le coiffeur, il s'occupe de Facebook.
Exactement, souvent chez le coiffeur. Sur notre page Facebook, Pascal, Dominique nous écrit: entre Lyon et Mâcon, printemps et été pourri, pluie, orage. J'ai pris mes vacances fin juillet, je suis resté sur place. On a même sorti le tarot. Pour Tania, oui, cet été a été particulièrement bof. C'était un peu déprimant d'ailleurs après l'année que l'on vient de passer. Julien, lui, a une grosse pensée pour les propriétaires, commerçants et agriculteurs impactés par les intempéries comme Nicolas que l'on a eu. Pour conclure, Sylvie nous dit qu'elle a même pu sortir la raclette fin juillet. C'est une performance.
Il est mort le soleil quand tu m'as quitté. Il est mort l'été.
Alors nous sommes avec Bernard qui habite dans les Alpes de Haute-Provence. Mais là encore, il a eu sans doute un très bel été. Bernard, bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Bah oui, écoutez, nous on a eu un... Il ne faut pas se plaindre en fait dans les Alpes de Haute-Provence. Moi j'habite à Josy à 1300 mètres là. On a eu vraiment... On a eu du beau temps, mais enfin c'était beaucoup moins beau et beaucoup moins chaud que les autres années.
Oui. Ah même chez vous, il y avait moins d'ensoleillement.
Ah oui, par exemple en ce moment où je vous parle, je regarde ma fenêtre, il pleut là, vous voyez.
Ah bah écoutez, c'est effectivement, voilà. c'est pas si fréquent. Mais vous avez bougé ou vous avez passé des vacances chez vous ?
Ah non, mais nous, moi en fait, je suis originaire du Nord et ça fait 12 ans que nous habitons ici avec mon épouse. En fait, à temps plein maintenant.
Donc c'est des vacances tout le temps et c'est l'été tout le temps.
Et on a notre fille qui s'était mariée avec un Ubaïen, quoi, voilà. Donc voilà, mes petites filles sont nées ici. Donc nous, non, on n'est pas partis. Nous, on reste là, on est bien.
J'ai pas compris le mot que vous avez dit. Un Ubaïen, avez-vous dit ?
Un Ubaïen, parce que c'est la vallée de l'Ubaï, ici. Mmh. Hein, l'Ubaï, vous savez, c'est un torrent.
Bien sûr.
C'est un des torrents les plus rapides, dit-on, d'Europe, en fait. Et donc, on a beaucoup d'activités. Bon, pendant les vacances, en fait, qui sont... fin juin, juillet ou début septembre, on va dire. On fait beaucoup d'activités comme le rafting, par exemple. Hein. C'est une grosse activité de la région. Ben, l'hiver, c'est le ski, bien sûr, mais l'été, c'est le rafting, le parapente, enfin, etc., etc., si vous voulez. Donc, nous, on a ce torrent qui... C'est pour ça que quelquefois, quand il pleut, on n'est pas trop déçu, parce que, si vous voulez, il y a besoin d'eau dans le torrent. Hein. Et il faut qu'il y ait du mouvement, on va dire, pour le raft. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, mais il faut qu'il y en ait quand même. Donc vous voyez, nous, ici, quelquefois...
Et vous avez la santé quand même, parce que vous n'êtes pas...
Pardon ?
Je dis, vous avez la santé quand même, parce que faire du rafting, vous n'êtes pas dans la première partie quand même de votre adolescence.
Ah non, mais moi j'ai 70 ans, mais je parle des touristes. Moi j'en fais d'une façon occasionnelle quand il y a une place, parce que mon gendre est guide de rivière, hein, donc mais c'est pas, vous savez, le rafting, c'est pas vous descendez 2 heures dans un rapide, c'est pas non plus on est à 5 dans le raft, il y a le moniteur vous accompagne, je veux dire, c'est pas très très très, c'est sportif, sûr, il faut savoir bien nager, bien entendu, mais
Ah oui, c'est quand même deux conditions qui sont importantes. Bah merci beaucoup, voilà. Bernard.
Oui,
merci.
Et donc, ce que je voulais vous dire, juste une dernière chose, si vous voulez, c'est que tout à l'heure, j'entendais parler d'énergie renouvelable. Là, nous, on a, dans ce village, on a 3 centrales hydrauliques, vous voyez. Une de 4 mégawatts, une de 2 et une de 500 kilowatts. Donc en fait, si vous voulez, l'eau aussi, ça nous déplaît pas, parce que ça fait marcher les centrales, quoi, qui rapportent, qui permettent d'être un village relativement aisé, quoi, si vous voulez. Voilà.
Ben merci de ce témoignage. C'est un petit tour de France sur les régions où il a fait beau et peut-être moins beau. Bien sûr, mais. Exactement. Je voudrais qu'on parle également de la troisième dose tout à l'heure, avant en tout cas la fin de l'émission. Mais on est avec Monique, parce qu'on va peut-être parler de la météo à Paris. C'est vrai qu'à Paris, c'est improbable, quoi, le temps qu'il fait. C'est pas tant qu'il pleuve, c'est pas tant d'ailleurs qu'il fasse froid non plus, mais c'est que c'est ennuagé toute la journée. Bonjour. Monique.
Bonjour Pascal, qu'est-ce que je suis contente de vous entendre.
Bah, et ça me fait plaisir, Monique. Mais qu'est-ce que vous faites aussi à Paris d'habitude? Vous bougez quand même.
Mais oui, mais je me suis rentrée la semaine dernière, cher Pascal, le 16.
Mais vous étiez où?
J'étais à Albi pour mon anniversaire.
Bah oui, bah Albi quand même.
Hein. Oui. Mais il a fait très chaud, on est monté jusqu'à 38. Ouais. Après, il a fait très froid. Là, ça a été même été pourri. Et je disais à Olivier, le temps, il est comme les gens, il est détraqué.
Mais oui, mais les statistiques nous disent le contraire.
Je me fiche des statistiques. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai passé un été. D'abord, déjà, je déteste l'été.
Ah bon ? Pourquoi ?
Alors, ça, j'aime pas l'été. Pourtant, moi, je suis né le 20 juillet. Je devrais aimer l'été.
Mais pourquoi vous n'aimez pas l'été ?
Parce que je n'aime pas la chaleur.
Vous êtes contente alors, là, parce que la chaleur, elle n'existe pas à Paris. Vous avez passé un bel été.
Le temps qu'il fait aujourd'hui. Oh, ben oui, non, il y a qu'une semaine que je suis arrivée.
Mais en même temps, si vous n'aimez pas la chaleur et que vous allez à Albi l'été, effectivement, pourquoi vous n'allez pas ailleurs ? Pourquoi vous n'allez pas à Dunkerque ? Ou à Berck, sur des plages où il fait peut-être moins chaud.
Attendez, je n'ai personne là-bas. J'ai mes sœurs à Albi. Mon fils, ma belle-fille, les petites sont à côté d'Albi. Et tout le monde a des maisons climatisées. J'ai même à ma disposition, chez ma sœur, chez qui j'étais pendant un mois, une piscine. Vous savez combien de fois je me suis baignée, Pascal ?
Ben, j'imagine beaucoup de fois pour vous rafraîchir.
Pas du tout, une fois.
Mais pourquoi ?
Parce que l'eau est trop froide.
L'eau de la piscine est froide ?
À 20 degrés, vous vous baignez, vous ? Moi, je me baigne pas.
À 20 degrés, moi, il fait très chaud pour moi, 20 degrés. On est habitués, nous, dans l'océan Atlantique, c'est 18. Ah ben, attendez, quand il fait 18, c'est la température classique. Donc 20 degrés, là, on reste 2 heures.
À glagla. Non, non, moi, je me baigne pas.
Bon, alors, quand il fait chaud, qu'est-ce que vous faites ? Vous rentrez dans la maison et vous sortez pas ?
Ouais, je bouquine. Et encore que cette année, avec tout ce qu'il y a eu, les vaccins, le Covid, j'ai même du mal à me concentrer pour la lecture.
À cause du vaccin et du Covid, vous ne lisez pas ?
Ouais, non. Puis bon, j'ai une amie qui est en EHPAD. Là, je vais aller la voir là, quand dès qu'on aura raccroché. Donc, il y a eu. Cette année, ça a été une.
Donc, vous n'avez rien fait, quoi. Vous étiez à Albi, mais dans vos journées, vous faisiez quoi ? Vous n'avez pas la chaleur, vous n'avez pas la piscine, vous n'avez pas la lecture. Qu'est-ce que vous faites ?
Ah, bah si, j'adore lire.
Ah oui, mais vous m'avez dit que vous ne pouviez pas lire.
Non, j'avais du mal à me concentrer.
Bon, qu'est-ce que vous faisiez alors, Albi ?
Ben, je le disais quand même, hein. Alors, en plus, la télé, les programmes, je ne vous en parle même pas, et les radios, c'était pas top non plus, hein. Aucune.
Bon,
j'en ai deux, je ne vais pas les nommer, à part la vôtre, il y en a une autre, vous savez laquelle c'est, on ne va pas y revenir dessus, mais c'est pas top, hein. Moi, et vous êtes la première radio à prendre la grille d'hiver, et je suis très contente.
La grille d'hiver, comme vous dites.
Ouais, la grille de la rentrée, quoi.
Oui, non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Non, mais j'ai bien compris que l'été, c'est pas votre truc, quoi.
Ah non,
l'été.
Non, ça, c'est pas mon truc. Hein.
Ouais, bah, non, mais bon.
Je peux vous dire qu'une année, avec ma meilleure amie, nous sommes allés à Rome la dernière semaine d'août. Je ne vous en parle même pas. On est sortis du Vatican. On s'est trompé de chemin, donc après, on a rebroussé, évidemment. On s'est retrouvés dans un resto vers 15h30 à peu près. Mais j'étais violette, je suis allée me rafraîchir aux toilettes.
Ah oui, mais si vous allez que dans des lieux où il fait très chaud, vous allez à Rome ou à Albi, donc je vous dis, allez en Islande.
Si vous aviez été la lumière, vous m'auriez vu tellement j'étais violette. Mais c'était impressionnant, hein.
Bon, ben merci Monique, c'est sympa parce que je sais que, je le dis pour nos auditeurs, vous nous appelez régulièrement. Alors, certains qui nous écoutent tous les jours reconnaissent votre voix, et puis d'autres, qu'ils le sachent, vous nous appelez pour nous faire un petit coucou et raconter un petit peu, ou donner votre avis d'ailleurs sur l'actualité. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous, chère Monique. Il est 14h19, il y aura le débrief, et on va parler encore de la météo, manifestement, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et nous sommes donc avec Françoise qui habite Lille. Bonjour Françoise.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Racontez-nous votre été et l'importance de la météo.
Mon Dieu. c'est même pas envisageable. C'est vraiment un printemps et un été. Ce que l'on appelle pourri. C'est-à-dire que je pense qu'il a fait beau en tout et pour tout 2 semaines.
Et oui, encore, ça doit être ça. Il a fait, c'était pas mal, effectivement. Je crois qu'il y a eu une séquence entre le 12 juillet de mémoire et le 20 juillet où il a fait très beau.
Après, au mois d'août, on a eu quelques jours du 12 au 15, à peu près. À peu près, 15, 12 ou 15 ou 16 août. Et maintenant, en fait, alors, vous voyez, ce matin, il faisait beau, et là, maintenant, ça y est, ça se... Voilà. Mais par contre, on sent bien que les températures sont celles qui arrivent dans l'automne, quoi.
Donc, oui, alors, on nous annonce qu'il va faire beau, là.
Oui, il fait beau, mais
on sent bien que, si vous voulez, ça n'est, entre guillemets, ça n'est plus l'été.
C'est-à-dire...
Je sais pas comment vous dire, c'est ben, les températures.
Non mais là, comment dire, moi j'ai souvent ces dernières années, il a fait des très beaux mois de septembre, voire des très beaux mois d'octobre, alors, ben, et il a et notamment à Paris,
à
il fait.
Lille, on s'accroche à ça. Hein.
Oui. Ben oui, non, vous avez raison, parce que... Alors après, chacun... moi, je suis très météo-dépendant, donc j'adore ça, quand il fait beau. Maintenant, il y a des gens pour qui c'est moins important.
Ouais, je suis d'accord, mais quand ça dure...
Ça me donne le moral, moi.
Vous repartez dans l'automne et l'hiver.
Oui, je suis d'accord.
En termes de luminosité...
Ah oui, non, mais c'est horrible. C'est horrible,
ça
vous avez
peu,
raison.
Quoi.
Je suis d'accord.
Voilà, donc bon... On verra bien, mais je veux dire, sortant d'une année un peu compliquée, bien sûr, et se prenant cet été-là, alors que l'année dernière, on a eu un printemps et un été extraordinaires, on était tous convaincus qu'il fallait venir habiter dans le Nord.
C'était plus compliqué en plus de voyager cette année, d'aller là pour des raisons évidentes. Donc il y a beaucoup de gens qui sont restés en France tout le temps.
C'est vrai, c'est vrai. Alors si on pouvait revoyager, peut-être que ce serait moins pesant. Peut-être.
Bon, ben c'est bien, Françoise. Vous avez bougé ? Vous êtes restée à Lille ?
Non, je suis restée à Lille. Alors, vous imaginez. Donc,
d'habitude, vous bougez ?
Ça, c'est la vie, hein. Oui, mais là, j'ai pas... d'habitude, je vais un petit peu au Club Med, etc. Mais là, je me suis dit...
Et vous n'avez pas un petit programme en septembre ou en octobre, même quelques jours dans le sud de... Parce que c'est agréable. L'après-saison, pour le coup, dans le sud de la France, c'est formidable.
C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais je pense que je vais faire un dernière minute. Voilà, quelque chose d'un coup, ça va me prendre en disant je ne peux pas repartir comme ça tout de suite, replonger dans l'automne et l'hiver sans avoir eu de soleil et un petit peu de chaleur, parce qu'il ne fait pas bien chaud, quoi.
Non, c'est vrai. Bah, merci beaucoup, Françoise.
Écoutez, je vous en
prie. Vraiment,
et puis,
merci beaucoup.
Voilà, c'est mon commentaire des gens du Nord. Enfin.
Les gens du Nord, oui, effectivement. On va être avec l'ami dans une seconde qui va venir faire le. Débrief, je pense que c'est maintenant d'ailleurs, je demande à Damien Béchiot, mais j'ai l'impression qu'il arrive, qu'il est là, il va être absolument magnifique, c'est le deuxième débrief de la saison.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL, c'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Faut-il continuer d'accueillir des réfugiés afghans sur le sol français ? Peut-on le faire en toute sécurité ? C'est non pour David.
On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et si vous voulez, on ne peut pas prendre le risque qu'il n'y ait ne serait-ce qu'un seul terroriste parmi ces réfugiés afghans sur le sol français.
Un avis au 32-10 qui a énervé Pauline.
Le risque zéro n'existe pas, mais d'un côté humain, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de laisser des gens livrer à leur propre sort ? Des femmes qui vont souffrir, des martyrs et bien d'autres parties de la population également.
Et puis, cette question, mesdames, messieurs.
Quelle est la phrase que vous avez le plus entendue cet été si vous êtes resté dans l'Ouest ?
Ah, bah j'en ai bien une. Une idée de réponse, Julien Courbet ?
Non, je ne couche jamais le premier soir.
Non.
Mais dans quel temps a-t-il fait chez vous cet été, pendant les vacances ? Vous êtes-vous dit en regardant le ciel ?
C'est vraiment la caca, la cata, c'est la catastrophe.
C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et en plus, la réaction du voisin.
Ah, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça. Vraiment, j'ai jamais eu ça.
Bon, Muriel nous a appelé au 3210, et c'est vrai qu'on n'a pas été gâtés, Muriel.
Muriel, ah bah oui, mais vous habitez dans le Vaucluse. Ah. Donc là, ça change tout, ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Ouais,
il a fait
temps.
Un temps sublime dans le. Non, mais vraiment. Oui.
C'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire ?
Ah oui, Muriel est venue nous faire rêver. Alors, si vous étiez dans le nord, l'ouest pour vos vacances ?
Nous, on a eu un super été. Hein.
Ah, très bien, Muriel, mais encore.
Sans souci, hein, on a eu beau temps, on a eu une journée ou peut-être deux journées de pluie.
Ah mais non. Non, c'est beaucoup trop, Muriel.
I believe I can fly. Il faisait chaud, il faisait bon, manger dehors, barbecue dehors. Non, sans souci.
Mais ce sujet de la météo vous passionne, Pascal. Même pendant le flash info de midi, vous ne pouvez pas vous empêcher d'intervenir.
Concernant la météo, il suffisait d'être patient. À part quelques averses orageuses sur le sud, temps sec et ensoleillé,
pour la plupart des régions aujourd'hui. Les courses, elles, ont lieu à...
qui sont depuis le 15 juillet, qu'il faut être patient quand ils reviennent de vacances.
Et là, Julien Courbet ne comprend pas ce qui est en train de se passer.
Juste parce que je suis un peu nouveau sur cette tranche, donc c'est un journal ou c'est une sorte de café du commerce ou comment ça se passe?
Les micros sont ouverts. Mais j'attends que vous me les donniez, vous.
Ne faites pas pipi dans le coin du studio, Pascal Praud, si vous pouviez aller aux toilettes au moins.
On
n'arrête plus ce Pascal Praud et vous aviez aussi des messages personnels pour toute l'équipe.
Vous commencez les 364 jours de votre non-anniversaire.
Un joyeux non-anniversaire.
Aujourd'hui, hier, c'était votre anniversaire. Mais aujourd'hui, je vous souhaite un joyeux non-anniversaire.
Avec le joyeux non-anniversaire à toutes et à tous. Et je sens aussi que quelque chose démarre entre notre réalisateur Damien et vous-même.
C'est bien aussi de travailler avec quelqu'un qu'on aime. J'en suis persuadé que c'est...
Mais oui, c'est bien.
Exactement. Oui, c'est comme bien, ça, on profite de lui toujours et tout le temps. C'est pour ça que je travaille avec Damien Béchiot tous les jours.
Ah, merci Pascal. Ça, c'est beau.
De l'amitié, de l'amour, allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec une chanson qui va tous nous réchauffer. La chanson qui fait danser Jean-Alphonse Richard.
Et Jean-Alphonse, effectivement, qui, comme tous les jours, va prendre ce micro à 14h30. Merci et rendez-vous demain.
À demain.
À demain.